culte espoir. Une heure de culte hebdomadaire préparée par Amandine, Marina, Mildred et leur équipe.
Auditrice, auditeur, bonjour ou bonsoir, selon là où tu nous écoutes, tu te trouves au culte espoir. Alors bienvenue aux habitués, aux auditeurs plus ponctuels, et pour ceux et celles qui viennent pour la première fois. Alors je t'invite à rester avec nous pour vivre un temps de partage avec Marina et Amandine. Bonjour les filles.
Salut, bonjour.
Elle nous fait l'honneur de revenir parmi nous, c'est Emmanuel Studer. Merci beaucoup. Pour ceux qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots simples?
Alors d'abord, merci de m'avoir réinvité. C'est un grand plaisir d'être de nouveau avec vous.
Trop partagé.
En quelques mots, je suis quelqu'un qui est très impliqué dans mon église et qui aime surtout faire partager la parole pour rendre justice à notre Dieu, parce que malheureusement, notre parole, la parole biblique, est souvent dénaturée. Et ensuite, Dieu se retrouve accusé de tous les maux de la planète. Hein, pourquoi laisse-t-il faire, comment se fait-il que, etc. Alors que non, il n'y est pour rien. Donc j'aime redonner du sens et le bon sens, si possible, à l'écriture.
Ben merci beaucoup, merci d'avoir accepté. Tu reviens nous partager un thème que tu as subtilement soufflé lors de notre dernier culte que nous avons vécu ensemble, la prédestination. Mais de quoi ça s'agit exactement?
Alors, voilà, si je dois faire un résumé maintenant, c'est pas possible.
Bien sûr, bien sûr.
Déjà, le temps imparti tout à l'heure va pas être simple à gérer.
Ouais.
Il y a juste une première chose que j'aimerais dire pour que ce soit déjà présent dans l'esprit des auditeurs, pour après, c'est ne pas confondre justement prédestination et préscience de Dieu. Ce sont deux notions totalement différentes.
Donc si tu n'as pas compris aucun des deux termes, ne t'inquiète pas, tout à l'heure tu comprendras mieux.
Eh ben, en tout cas, j'ai vraiment hâte de t'écouter, vraiment. Alors, en attendant que l'Esprit prépare nos cœurs pour le partage de ce message et qu'il nous accompagne tout au long de ce culte, auditeurs, auditrices, bonne écoute. Comme à notre habitude, nous commençons par la chronique « Dieu dans ma semaine », une chronique dédiée à l'action concrète de Dieu dans nos vies. Alors Marina, la parole est à toi.
Merci. Alors pour aller au travail, je prends un scooter jusqu'à la gare, et puis ensuite le train, puis ensuite les transports en commun jusqu'à ce que j'arrive au travail. Bon, je marche encore 10 petites minutes.
C'est bien courageuse, hein,
c'est pas mal. Hein. Et donc, ça fait pas mal de routes, pas mal de monde que je croise dans ma journée, mais il y a des inconnus qui deviennent familiers. Comme ce petit jeune que je croise ponctuellement dans le train de 7h02 le matin. Et voilà plusieurs fois que nous sommes assis l'un en face de l'autre cette semaine. Bon, la vingtaine, bonne bouille, basket, tenue de sport, training, suite à capuche, sac à dos, des écouteurs aux oreilles et évidemment rivé sur son téléphone. Signe distinctif qui me saute aux yeux, un tatouage dans le cou. Un truc écrit, quoi. Alors bon, c'est pas mon style de dévisager des gens, des inconnus surtout. Mais là, je sais pas, je me dis, mais qu'est-ce qui pourrait y avoir de si important qu'on ait envie de graver là à l'encre sur le cou? J'ai pensé un peu à la douleur de la zone de tatouage, le cou quand même, est visible du cou. Bon, alors en me posant toutes ces questions, finalement, je pense que je suis vraiment en train de dévisager ce jeune homme. Et je vois, oh, un mot en portugais. Ah, bah voilà pourquoi je comprenais pas, j'avais pas activé la bonne langue dans ma tête. Et voilà, j'ai trouvé. Un dia nos encontraremos no céu. Un jour, nous nous rencontrerons, nous nous retrouverons au ciel. Ah, tiens donc. Et j'étais envahie de compassion pour ce petit jeune, sans même connaître son histoire. Mais quelle pourrait être son histoire? Est-ce qu'il a perdu un frère, une sœur, un père, une mère, un grand-parent? Est-ce que ce drame a eu lieu avant sa naissance? Ou bien lui-même peut-être aurait pu être un jeune papa qui a perdu un enfant? On ne sait pas. Je ne connais pas l'histoire de ce jeune, mais mon cœur a été, je crois, assez bouleversé finalement par ces mots qui sont gravés dans son cou comme un cri, comme un appel ou un rappel écorché vif, mais avec une espérance. Un jour, au ciel, on va se retrouver, on va s'en rencontrer. Eh bien, bien sûr, moi, je la porte en moi, cette espérance. La Bible dit que Jésus va revenir et qu'il y aura une résurrection. Alors, assurément, il y aura des rencontres, mais aussi des retrouvailles. Alors, j'avais presque envie de dire à ce jeune de garder courage, de garder l'espoir, la foi de ce jour promis. Mais nous n'avons pas encore parlé ensemble. Mmh. Alors, j'ai simplement pris mon temps de trajet pour prier pour lui, pour ce dont il avait besoin, pour ce dont il avait été privé, pour sa consolation, son espérance, et puis sa vie de jeune avec les multiples choix qui l'accompagnent. Que Dieu l'aide à choisir les bons chemins. Et peut-être qu'on aura l'occasion de cet échange, finalement, un jour, dans un prochain voyage en train. Mmh. Et si Dieu nous avait placés là, face à face, pour vivre ce moment d'échange? Est-ce que j'ai le choix de lui parler, ou pas? Oui, je crois. Et ce jeune, est-ce qu'il a le choix de ne pas vouloir parler? Ben, aussi. Comme quoi, on pourrait très bien finir cette histoire comme ça. Ou bien, il y aura une suite, Dieu seul sait où ça pourrait mener.
Juste un souffle de ta bouche et me voici. Rien qu'un battement de ton cœur me donne vie. Au commencement du monde, ton cœur a parlé. Avant toute chose, tu m'as désiré. Tu as créé les étoiles et ces millions de galaxies, dessiné ces paysages par le souffle de l'esprit, et ton cœur de père a désiré ma vie, et ton cœur de père a désiré ma vie. De ta main tu peins les étoiles et le ciel. L'univers répond au son de ton appel. Dans le désir de ta grâce, créé de tes mains, image et souffle de ton amour divin. Tu as créé les étoiles. Et ces millions de galaxies, dessiner ces paysages par le souffle de l'esprit, et ton cœur de père a désiré ma vie, et ton cœur de père a désiré ma vie. Tu as créé les étoiles et ces millions. Prosterné devant ton trône, des hommes et des anges uniront leur voix, proclamant leur louange. Oh, là où brillent les étoiles, où ton amour a donné vie, dans les cieux nous chanterons avec les anges à l'infini. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. 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 Désirer. vie.
Voici un verset avec lequel j'aimerais t'encourager. Ce verset, tu peux le trouver dans l'Ancien Testament, dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 41 et le verset 9. Il est dit « Toi, que j'ai pris aux extrémités de la terre et que j'ai appelé d'une contrée lointaine, à qui j'ai dit « Tu es mon serviteur, je te choisis et ne te rejette point. Ne crains rien, car je suis avec toi, ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. » Je te soutiens de ma droite triomphante. C'est plutôt clair, hein, je trouve. Chacun de nous est choisi par le Très-Haut, par Dieu lui-même. C'est lui, par-dessus tout, qui te fortifie et te soutient pour la vie de tous les jours. La question, c'est est-ce que toi, est-ce que moi, je décide en retour de choisir Dieu et tous les bienfaits qu'il me procure. Sois béni. Nous sommes dans la chronique « Dieu agit », une chronique consacrée au témoignage vécu avec Dieu. Alors Amandine, que nous réserves-tu aujourd'hui ?
J'ai été à la rencontre de Jonathan, un ami qui a accepté de partager un petit bout de son histoire avec Dieu. Je te laisse découvrir.
Eh bien bonjour, je me présente, je m'appelle Jonathan, j'ai 32 ans. Aujourd'hui, j'aimerais apporter mon témoignage sur la manière dont Dieu a restauré son plan dans ma vie et d'une manière plus générale, comment il a restauré ma vie, tout simplement, malgré un parcours difficile, compliqué, semé de difficultés et de souffrances aussi, beaucoup de souffrances. Je voudrais commencer par parler un peu de ma nature, ça serait plus compréhensible pour la suite. Je suis assez impulsif, je fais beaucoup de choix impulsifs. Je suis impatient et je me décrirais en tant qu'enfant de Dieu comme un enfant capricieux avec son papa. Ouais. Et donc du coup, j'ai fait beaucoup de choix dans ma vie où je n'ai pas concerté la volonté de Dieu. Où j'ai sciemment plusieurs fois pris la décision de m'écouter et puis de me dire que quoi qu'il arrive, le Seigneur serait à mes côtés et qu'il fera en sorte que même si les choix c'est les miens et pas les siens, bah il serait quand même avec moi et qu'il m'aidera malgré tout et qu'il m'évitera les difficultés de ses choix parfois pas très judicieux. C'était très utopique de ma part. Et j'ai énormément souffert. J'ai vécu une décennie, on va dire, de souffrances liées à ces choix. Plusieurs fois, j'étais sur mon chemin de croix où je pouvais choisir ce que Dieu avait comme plan pour moi ou ce que je voulais moi personnellement. Et dans ma nature capricieuse, j'ai très souvent choisi ma volonté. Et c'est catastrophique. C'était catastrophique. Ma vie a pris une tournure assez compliquée. Pour rester évasif un petit peu sur certains sujets, pour plutôt me concentrer sur la manière dont il a restauré ma vie, je voudrais simplement dire que j'avais le sentiment que ma vie était scellée dans beaucoup de difficultés, de complications lié à mes choix passés, où j'ai choisi ma volonté plutôt que celle de Dieu. En prenant de la maturité, et une fois le fait accompli, j'ai compris que j'avais fait beaucoup de choix qui étaient pas les siens, et j'ai fait une forme de rébellion où j'ai perdu un peu la foi, et ça m'a amené à d'autant plus de complications et une vie dénuée de sens. J'étais devenu une personne un peu sombre, pas mal portée sur l'alcool, sur des très mauvaises valeurs au moment où j'ai perdu pied, où j'ai perdu la foi. J'avais le sentiment que ma vie était vraiment scellée liée à ses choix et que c'était terminé pour moi. Et que Dieu avait entre guillemets en avait fini avec moi et que c'était lié à tous ses choix, à toutes ses, tous ses projets de vie qui n'étaient pas les siens et tous ses caprices et toutes ses, voilà, tout ce qui est lié à ma nature et tout ce qui est lié à mon immaturité spirituelle aussi. Et c'est en 2020 où Dieu a restauré de manière spectaculaire ma vie. Sans rentrer forcément dans les détails, il m'a brisé. Il m'a enlevé tout ce qui était important pour moi. Jusqu'à mon appartement, ma maison, j'ai vécu un temps sans domicile fixe, entre guillemets. Et c'est dans ce temps-là, dans ce temps particulier, dans ce temps où j'étais vraiment brisé émotionnellement et sur le point financier, sur le point matériel, c'est à ce moment-là, et c'est dans cette fenêtre-là que le Seigneur a utilisé pour me parler et pour me ramener à lui. Malgré le contexte très compliqué, j'ai senti une bienveillance et j'ai senti son amour comme je ne l'ai jamais senti auparavant. J'ai senti un espoir alors que tout était brisé. Il a fait naître en moi l'espoir et de me dire que en fait tout n'était pas terminé. Mon cœur était en paix malgré le fait que je vivais, je pense, la période la plus dure de ma vie. À travers tout ça, à travers ces moments difficiles, le Seigneur m'a restauré, m'a ramené sur son plan initial. Aujourd'hui, je vis simplement et je vis tous les jours de ma vie en cherchant sa volonté, en cherchant son plan divin pour moi, ce qu'il veut pour moi. Et depuis que j'ai décidé de chercher sa volonté et d'être dans son plan, ma vie est transformée, vraiment. Et je ne manque de rien. Il y a beaucoup d'amour autour de moi, beaucoup de paix. Et véritablement, c'est une transformation spectaculaire. La volonté de Dieu avant tout. Et comme il est écrit dans sa parole, cherchez d'abord le royaume des cieux et il vous donnera tout par-dessus. Et tout cela s'est concrétisé dans ma vie et je voudrais vraiment rendre gloire à Dieu, vraiment rendre gloire à Dieu pour ce qu'il m'a fait, pour ce qu'il a fait dans ma vie. Voilà.
Alors Emmanuel, la prédestination, la parole est à toi.
Alors la prédestination, il faut déjà la dissocier de la préscience. Quand on est prédestiné, si je prends les définitions du petit Robert par exemple, c'est la détermination préalable d'événements ayant un caractère de fatalité. Ça veut dire que effectivement les choses vont arriver quoi qu'il en soit, c'est la fatalité, on peut rien y faire, c'est ainsi, je suis prédestiné. Alors attention avec ce langage sur la prédestination, parce que c'est celui qu'avait Calvin, navré pour tous les Genevois qui sont fiers de leur ville, mais Calvin avait émis une théorie, c'est pas le seul d'ailleurs, comme quoi Dieu avait choisi dès avant la fondation du monde les élus et les rejetés.
Ceux qui seront sauvés et ceux qui ne seront pas sauvés.
C'est-à-dire que dès la fondation du monde, il avait déjà un club qui serait sauvé et un club qui ne serait pas sauvé. Alors ça, c'est pas ce que dit la Bible. La Bible dit plutôt le contraire, c'est que Dieu a prédestiné tout le monde, sans aucune exception, à être sauvé. Maintenant, il y a la notion de l'amour et de la liberté avant d'en arriver à la préscience. L'amour ne peut pas être exercé ou vivre pleinement, être vécu pleinement, sans la liberté. Si je vous oblige à m'aimer, bon, ben, c'est pas terrible, c'est pas ce qu'on appelle un vrai amour. Hein. L'amour, si on prend de nouveau les définitions, c'est une disposition à vouloir le bien d'un autre que soi et à se dévouer à lui. C'est un attachement désintéressé et profond. J'aime cette dernière définition parce qu'elle correspond totalement à la définition de l'amour de Dieu à notre égard. Désintéressé et profond. Et qu'est-ce qu'il attend en retour ? Le même amour. Désintéressé et profond. Mais, justement, pour qu'il y ait un vrai retour et un équilibre dans la relation, il faut la liberté. S'il n'y a pas une liberté absolue, ça ne va pas coller. Alors, qu'est-ce que la liberté ? C'est ne pas subir de contraintes et c'est pouvoir agir selon sa propre détermination. Donc voilà, Dieu se trouve face à une énigme qu'il refuse de gérer parce que justement son amour, qui est un désintéressé et profond, nous offre cette liberté de l'aimer ou non. Parce qu'il aimerait aussi que si on l'aime, ce soit comme lui, désintéressé et profond, pas dans l'obligation ou dans la contrainte. Ça, c'est une première chose. Alors, qu'est-ce qu'on voit comme certains textes ? Je reviendrai à la préscience après, mais comme certains textes, déjà dans l'évangile de Jean, Jésus le dit lui-même, hein, au verset 39 et du chapitre 6. Il dit que la volonté de son Père, c'est-à-dire de celui qui l'a envoyé, c'est qu'il ne perde rien de tout ce qu'il lui a donné, mais qu'il le ressuscite au dernier jour. Alors là, on pourrait me dire, oui, mais justement, il lui a donné peut-être que 10% de l'humanité, et non pas tous. Mais si on lit attentivement les évangiles et qu'on voit l'attitude de Jésus face aux gens qui l'entourent, même les pharisiens qui ne cessaient de le harceler et de le persécuter, il les a accueillis toujours avec bienveillance. Maintenant, il sentait bien qu'en face, c'était pas réciproque. Et Jésus a toujours accueilli avec bienveillance justement ceux que nous n'accueillons pas avec bienveillance. Celui qui pue, qui est moche, qui est au bord de la route, qui est en mendiant parce qu'en plus il a les yeux purulents, il est aveugle. Celui dont personne ne veut. Celui dont on va dire même « Tais-toi, tais-toi, il y a le maître qui passe ». Ben justement, le maître passe, il l'appelle. Et le maître va s'arrêter et il va avoir un regard bienveillant. Et quel est l'intérêt de Jésus de guérir un aveugle ? Zéro. Donc ça montre bien son amour. Selon la définition, son amour désintéressé et profond, juste pour le bien de l'autre. Et pour qu'un amour soit réellement partagé, et tous ceux qui vivent en couple le savent bien, il faut que ce soit en effet totalement partagé cet amour. S'il y a la moindre contrainte, très vite le couple va casser. Donc nous avons déjà l'exemple de nos propres vies par rapport à cela. Maintenant, venons peut-être à la préscience qui est exprimée avec Paul dans Romains chapitre 8, verset 29. « Car ceux qu'il a connus d'avance. » Alors ça, c'est la préscience. C'est savoir ce qui va se passer dans le futur alors qu'on n'y est pas encore. Ça, c'est la préscience. Mais la préscience, le fait de savoir quelque chose, n'induit en rien et n'influence en rien les actes en amont. A contrario, ce sont les actes en amont qui vont définir la préscience. Donc si Dieu sait, par exemple, que je ne vais pas être sauvé, c'est pas parce que lui l'a décidé, c'est parce qu'il sait à l'avance les choix que je vais faire librement. Ça n'enlève en rien à ma liberté. Et alors, chose intéressante, c'est qu'en fait, ce sont mes choix et ma liberté qui vont définir la préscience de Dieu. Parce que lui, il sait tout, mais il sait ce que je vais faire. Mais ce n'est pas parce qu'il le sait que ça me bloque ou m'influence en quoi que ce soit. J'ai la plaque électrique allumée, les anciennes plaques électriques bien noires. On ne voyait pas si elles étaient chaudes ou pas. Je dis à mon enfant, ne la touche pas, elle est chaude, il va la toucher. Moi, je sais que s'il la touche, il va se brûler. Mais ce n'est pas parce que moi, je le sais que ça va faire qu'il va m'obéir ou non quand je lui dis de ne pas la toucher. Je sais qu'il va se brûler si il la touche. Par contre, je ne sais pas s'il va la toucher réellement ou non. Vous voyez, c'est quand même assez subtil, mais c'est quand même ça la grande différence. C'est que la préscience de Dieu est totalement définie par nos actes en amont et nos choix en amont.
Alors est-ce qu'on pourrait imaginer, pour bien comprendre ça, la préscience dont tu parles, ce serait comme si qu'en fait on faisait partie d'un film, on est des personnages dans un film, et puis Dieu connaît déjà la fin du film, il a déjà vu l'histoire.
Voilà, c'est comme, effectivement, c'est tu vas au cinéma, t'as déjà vu le film, tu vas avec un copain revoir ce film parce que, waouh, il est génial, il faut qu'on partage. Toi, tu sais comment ça va se finir. Voilà. Mais c'est pas parce que tu sais comment ça va se finir que ça influence le metteur en scène sur la fin du film.
D'accord. Ouais, ouais.
Tu vois, c'est exactement ça. Alors, si on continue, par exemple, avec Paul, on a aussi Éphésiens 1, 5 qui nous dit nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. Donc on voit bien que Dieu n'a pas de condition, il nous prédestine à être ses enfants. Ça, c'est sa volonté. Ça veut dire que tout le monde est prédestiné, sans exception, pour le plan du salut. C'est-à-dire de vivre éternellement dans cet amour profond, sans contrainte, sans deal quelconque, juste s'aimer, parce qu'on en a envie. Et dans Pierre, c'est aussi quelque chose de merveilleux, c'est que Pierre, dans 1 Pierre 1, il nous est dit que Christ lui-même avait été prédestiné avant la fondation du monde pour le plan du salut. Mais là aussi, Christ aurait pu renoncer à un moment donné, même s'il avait été prédestiné, c'est-à-dire choisi à faire quelque chose. Il aurait pu très bien dire à un moment donné, « Ah non, non, moi je ne descends pas sur terre. Au final, ça ne me plaît pas. » Mais comme il est Dieu lui-même et qu'il a un amour profond et désintéressé pour nous, bien évidemment, il a accepté le deal. Ensuite, il s'est retrouvé un peu coincé, limité dans un corps d'homme, dans le temps et dans l'espace, en tant que Jésus-Christ sur terre. En tant que Jésus sur terre, automatiquement, il n'avait plus les mêmes capacités. Et surtout, ce qu'il y a de merveilleux, et c'est quand il dit « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné sur la croix ?» c'est qu'à un moment donné, en effet, il s'est offert pour moi, pour toi, auditeur, pour chacun d'entre nous, sans savoir à ce moment-là si effectivement ça allait avoir un impact ou non. Et c'est pour ça qu'il est mort dans un grand désespoir, parce qu'au final, il l'a fait par amour, mais sans connaître la suite. Parce que là, il n'avait plus, lui, de préscience, clairement.
C'était un humain.
C'était un humain, avec toutes les limites que cela implique. Et c'est pour ça que ce cadeau est juste, en effet, une preuve d'amour. Il le dit lui-même, il n'y a pas de plus grand cadeau que d'offrir sa vie pour ses amis. Il en parle lui-même. Donc, pour avancer, il y aurait encore plein de thèmes à prendre, parce que la Bible parle des rouleaux, des doubles contrats, etc., où il y a le livre de vie. Dans le livre de vie, tous les noms, sans exception, sont inscrits.
Les noms des gens qui sont sauvés?
Non, de tout le monde.
De tout le monde, d'accord.
De tout le monde. Alors, par contre, ce qui va se passer au moment du jugement, c'est ce qu'on voit dans l'Apocalypse, mais c'est un livre un peu long à expliquer, à raccourcir, mais je vais essayer en quelques mots d'en extraire ce qui nous intéresse. C'est que dans l'Apocalypse, on a un livre où tout le monde est écrit, mais c'est un contrat qu'on appelle en archéologie les doubles documents. Et tout le monde y est écrit. Maintenant, l'opération du jugement va être de voir qui, effectivement, a choisi ou non Dieu. Et les témoins qui sont avec Dieu dans cette opération, ce n'est pas Dieu qui le fait, le jugement, ce sont les témoins qui sont dans cette opération qui le font, disent, lui, clairement, il n'a pas choisi Dieu. Donc, on raye le nom. Et l'autre, il dit, oui, il a choisi Dieu. Donc, on laisse le nom. Et ainsi de suite. Donc, on en raye quelques-uns, on en laisse quelques autres, mais à la base, tout le monde est inscrit. Et c'est à la suite de cette opération, dite de jugement, que des noms vont être tracés. Et ceux qui vont être tracés, c'est ceux qui ont décidé sciemment de ne pas répondre à cet amour profond, immense et désintéressé de Dieu à leur encontre. C'est uniquement ça. Mais la prédestination dans l'absolu, c'est que nous sommes tous, sans aucune exception, prédestinés au salut. Maintenant, mes actes, je choisis Dieu ou non, vont influencer la préscience de Dieu. Et Dieu qui sait tout saura si j'ai choisi ou non, ce qui n'enlève en rien à ma liberté de choisir ou non. Et comme il le saura, effectivement, mon nom sera tracé selon si je renonce à son cadeau et à sa main tendue. Ou au contraire, mon nom sera maintenu sur la liste parce que je l'aurai choisi. Donc vous voyez, il y a quand même beaucoup de notions dans cette prédestination, et c'est dur en quelques minutes comme ça de présenter un sujet aussi corsé, mais si on pouvait retenir quand même cette grande différence entre prédestination qui concerne tout le monde, mais absolument tout le monde, et préscience, c'est que Dieu m'aime, il attend le même type d'amour en retour, et il n'influence en rien mes choix, parce que l'amour sans la liberté, ce n'est plus de l'amour.
Bienvenue à toi, auditeur, auditrice. Si tu viens de nous rejoindre, tu es au culte espoir. Emmanuel vient de nous parler de la prédestination. C'est un mot un peu barbare. Et si tu n'as pas écouté son message, ben on va pouvoir parler de ça maintenant dans cette chronique. Et toi, ça te parle. Une chronique où l'on réagit à chaud sur ce qui nous a interpellés. Alors, ami chroniqueur, la prédestination, la préscience, ça vous parle ?
Alors moi j'ai beaucoup apprécié la toute dernière phrase Emmanuel que tu as sortie qui disait « L'amour sans la liberté, c'est plus de l'amour ». Et je trouve quand même assez fou et compliqué d'imaginer que le Dieu créateur de toutes choses ait décidé un couple d'humains, de donner la vie à un couple d'humains, Adam et Ève, et puis a créé comme un pacte d'amour et de respect et de liberté dans une belle relation qu'il a voulu créer avec ben, ce premier couple et tous les descendants ben, que nous sommes aujourd'hui. Sans un retour en fait, si ce n'est juste le retour de notre amour, sans exigence. Et je pense que ça nous montre un Dieu qui est plein d'amour, ça nous montre un Dieu qui est probablement pas celui qu'on s'imagine. On a souvent tendance à imaginer qu'il faut faire des choses pour Dieu, qu'il faut prouver des choses pour Dieu, et puis simplement ce qu'il nous demande c'est de l'aimer. C'est ce qu'il nous propose, et je trouve que c'est beau.
Je me suis demandé quand tu parlais, puis là quand je t'écoute, je me suis dit mais s'il quel intérêt pour Dieu de laisser vivre si c'est la fin? De me dire, c'est comme quel intérêt de voir un film si t'as déjà vu la fin, et puis tu vois, je suis devant le Titanic, à chaque fois j'espère qu'il va pas couler, puis il coule quand même, tu vois, puis je me dis, mais pourquoi? Et je me dis, Dieu, il sait, son enfant, il le voit, il sait que, parce qu'il a cette capacité de préscience, et puis du coup, il sait qu'il va pas le choisir. Et pourtant, il y a quand même la vie, il y a quand même. Parce qu'il y a l'amour, j'imagine, c'est ça la réponse.
Il y a l'amour, mais il y a aussi le fait que Dieu est perpétuellement interpellé. Ça, on le voit dans le livre de Job, parce que tu parles des êtres humains, mais Dieu a créé d'autres êtres avant les êtres humains, exactement sur le même schéma, c'est-à-dire sur une relation d'amour. Et il y en a quand même une série qui n'ont déjà, dans précédemment, avant nous, n'ont pas choisi Dieu. Donc, il y a tous les témoins de cette histoire. Donc, il y a ceux qui n'ont pas choisi, et il y a ceux qui sont restés avec Dieu. Et ceux qui sont restés avec Dieu, à un moment donné, pourraient quand même se dire, ouais, mais dans le fond, est-ce que, au final, j'ai fait le bon choix? Ou est-ce que les autres sont vraiment des affreux? Ou est-ce que je suis du bon côté? Donc, par rapport aux créatures créées, Dieu n'a pas vraiment le choix que d'apporter la preuve par le vécu que, en effet, il nous aime de façon désintéressée et qu'il attend cet amour désintéressé en retour. Alors, c'est pas parce que justement il a cette préscience de savoir tout ce qui va se casser la figure que ça ne l'a pas empêché de quand même créer même des êtres qu'il savait plus tard le rejeter. Pourquoi ? Parce que les autres êtres humains ou autres témoins de toute cette histoire devaient eux aussi être très convaincus que oui, Dieu est un Dieu d'amour. Parce que regardez l'histoire de Job. Est-ce de façon désintéressée que Job te sert? Hein, c'est là où Dieu dans est provoqué.
Dans les réalités spirituelles, quoi, avec les anges et tout ça.
Oui, avec les anges. Mais même, si ce texte interpelle ce que combien d'êtres humains disent. Mais est-ce que vraiment Dieu est un Dieu d'amour s'il laisse mourir les enfants à la guerre? Est-ce que vraiment Dieu, combien de fois on l'entend ça? Eh bien, c'est cette même petite phrase qu'on a dans le livre de Job. Mais vraiment, est-ce que c'est de façon désintéressée? Et Dieu dit, ok, tu mets en doute l'intérêt, enfin l'amour gratuit de Job pour moi, ok, ben bricole avec lui ce que t'as envie, et voilà. Et donc la preuve sera apportée par l'attitude de Job, que effectivement Job aimait Dieu de façon désintéressée, malgré l'accusation dont Dieu est victime.
Et toi, Brian, comment ça t'interpelle?
Moi, je trouve intéressant, en fait, j'ai l'impression, alors peut-être que je me trompe, mais que au final, il y a aussi cette idée de soumission de Dieu, dans le sens où en fait, Dieu, le Tout-Puissant, qui nous a prédestinés tous, on est tous choisis. Et en fait, c'est dans un sens, c'est nous qui choisissons Dieu. Donc, c'est en fait, ce choix, il revient à nous de l'accepter au final. Et c'est pas le contraire. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire.
C'est l'humilité du divin.
Voilà, l'humilité du divin de dire, en fait, c'est toi, en fait. C'est toi qui choisis. C'est toi qui veux me suivre. Et je te laisse cette opportunité-là de vouloir me suivre. Et c'est pas tant... parce que finalement, on peut se dire... je fais des choses pour essayer de plaire à Dieu, d'être dans la bienveillance et tout ça. Mais finalement, là, Dieu, il nous donne vraiment toutes les clés en main pour être... s'approcher de lui, en fait.
Peut-être la limite que je vois quand même, c'est qu'une fois que tu fais le choix, il y a quand même un cheminement et une acceptation de qui est Dieu, de aussi que tu as besoin de Jésus sur la croix pour tes péchés, etc.
Ouais.
C'est peut-être la limite.
Et surtout, par rapport à ce que tu dis, c'est que l'amour qu'on voit de Dieu, ça se traduit dans le fait qu'il nous laisse le choix aussi, je trouve.
Moi, j'ai assez envie de revenir à la relation de couple. On se choisit, on s'aime. C'est un peu le coup de foudre. Au début, on se connaît pas vraiment, mais enfin, voilà, clac, ça match. Mais c'est à force de se fréquenter, à force de se côtoyer, qu'on apprend à savoir ce que l'autre aime et n'aime pas. Et donc, c'est dans cet apprentissage qu'on va aussi, par amour gratuit pour l'autre, faire plutôt ce que l'autre préfère que ce qu'il n'aime pas. C'est un peu pareil avec Dieu. C'est qu'on dit qu'il n'y a pas de salut sans les œuvres, mais ce ne sont pas les œuvres qui amènent au salut.
Tout à fait.
Donc, c'est ça qu'il faut bien déterminer. C'est que si j'ai un amoureux, je vais tout faire pour lui faire plaisir.
Tout à fait. Et toi, à la maison, est-ce que ça te parle que cette réflexion puisse continuer de mûrir en nous et puis en toi à la maison?
mon péché brise ton cœur. Bien avant que coule le sang et la sueur, bien avant les coups, le froid et la douleur, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Abba, Père, je suis à toi. 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 Abba, Père, je suis émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba, Père, si grande est ta tendresse, ton cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Abba, Père, je suis émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour. Abba, Père, je suis à toi. Abba, Père, je suis à toi. Abba, Père, je suis à toi.
Dans cette chronique, Dieu dans les arches, je te propose de parler un peu de littérature et c'est Marina qui m'a soufflé l'idée de ce livre de Rick Warren qui s'intitule « Une vie, une passion, une destinée ». En sous-titre, « Pourquoi, le pourquoi, suis-je sur Terre ?» Alors Rick Warren est un pasteur d'une méga church, une méga église à Saddleback. Et c'est en 2002 qu'il a écrit ce livre qui est édité par Ministère Multilingue. Si tu veux te le procurer, tu le retrouveras facilement dans une librairie chrétienne ou sur Internet. Best-seller avec plus de 18 millions d'exemplaires vendus rien qu'aux USA, ce livre est traduit dans de nombreuses langues. Alors pour en revenir au sous-titre du livre, le fameux « Pourquoi suis-je sur Terre ?», c'est une question que tu peux te poser. L'auteur t'invite à vivre une expérience de 40 jours, à parcourir ce livre où tu tenteras de comprendre la raison de ton existence sur Terre. Alors comprendre le plan de Dieu pour ta vie et celle de chaque humain. Ce que je trouve intéressant dans le format du livre, c'est que chaque jour, nous avons 4 points pour nous guider dans notre réflexion. Alors nous avons le point A, idée à méditer. Donc il s'agit de phrases qui résument un principe de vie pratique auquel tu pourras réfléchir, méditer au cours de ta journée. Point 2, un verset à apprendre, une ou deux phrases bibliques qui t'accompagnent et t'encouragent, un peu comme notre chronique promesse biblique. Troisième point, c'est une question à te poser. Ces questions t'aideront à penser aux implications de ce que tu as lu et à la façon dont cela s'implique personnellement dans ta vie. Et point 4, enfin, des questions de discussion. Donc l'auteur t'encourage vivement à demander à une ou plusieurs personnes de te joindre à ces 40 jours. Cela t'aidera à fortifier, à avoir un regard autre que le tien. C'est d'autant plus agréable de le faire à plusieurs que seul, je dois l'avouer. Alors, cet ouvrage permet aux croyants dubitatifs de suivre une progression dans sa pensée grâce à un contenu clair et fort intéressant. Ce livre propose une écriture simple et adaptée à celui qui se pose des questions sur Dieu sans avoir tout le langage de la foi. La librairie chrétienne CLC, Croisade du livre chrétien, parle de ce livre en ces termes. Un manifeste percutant sur le sens de la vie. Alors pour finir, j'aimerais juste lire les premières phrases de ce livre, à voir si ça te donne envie de continuer la lecture. Ce n'est pas vous qui décidez. Le but de notre vie dépasse de loin votre épanouissement professionnel, votre paix intérieure ou votre bonheur. Il est bien plus grand que votre famille, que votre carrière ou même de vos rêves, de vos ambitions les plus fous. Si vous voulez savoir pourquoi vous avez été placé sur cette terre, vous devez commencer avec Dieu. Vous êtes né par lui et pour lui. Voilà, je te laisse avec ça. Si tu veux découvrir la suite, le titre du livre est « Une vie, une passion, une destinée. Pourquoi suis-je sur terre ?» de Rick Warren.
Je nous invite à un temps de prière et c'est l'occasion de te tourner tout spécialement vers Dieu en prenant la position qui te semble la meilleure. Je sais qu'Emmanuel, la dernière fois, nous avait invité à tester de prier les mains ouvertes devant soi. Nous prions avec Emmanuel justement, et libre à toi, cher auditeur, chère auditrice, de poursuivre ensuite ce temps de prière chez toi.
Père éternel, toi qui m'as créé selon ton bon vouloir, et tu m'as créé pour la vie. Mais ton amour est tellement immense qu'il me laisse te choisir ou de te tourner le dos. Seigneur, moi j'ai décidé de te choisir. C'est autour de cette table aussi ont décidé de te choisir. Et c'est merveilleux parce que tu te mets à notre service, tu te mets à notre dépendance, parce que tu nous laisses ce choix merveilleux dans ton amour. De te choisir. Seigneur, permets que tous ceux qui nous écoutent soient interpellés par la grandeur de ton amour, si désintéressé. Tu nous aimes parce que juste tu nous aimes. Tu nous aimes parce que tu nous as créés, parce que tu nous as désirés et parce qu'en plus tu nous as fait un cadeau immense. Tu nous as créés à ton image. Quel cadeau, Seigneur. Permets que tous ceux qui écoutent actuellement puissent aussi découvrir à quel point tu es un amoureux plein de tendresse, plein de miséricorde, plein de bonté, tout ça dans la gratuité. Tu nous as tous prédestinés et désirés, sans exception, à ce que nous puissions vivre avec toi. Mais tu nous laisses la liberté de nos choix. Alors Seigneur, pour tous ceux qui t'ont déjà choisi, et pour tous ceux et toutes celles qui vont te choisir, guide-les, aide-les, permets qu'ils puissent sentir sensiblement à l'intérieur de leur cœur ta si douce présence. C'est ça ma prière, Seigneur, pour chacun d'entre nous et pour tous ceux qui sont à ton écoute et à ta recherche. Amen.
Amen. Tu as été fidèle, tu le seras encore. Ton amour pour moi traverse l'épreuve du temps.
Avant mon premier souffle, tu me connaissais. Tu as préparé pour moi des projets de bonheur.
Non, jamais je ne serai trop éloigné, trop pressé pour revenir à la maison. Non, jamais je ne serai trop éloigné, trop pressé pour revenir à la maison. Tu m'aimes un amour infini. Ouh. Ton regard tourné vers moi est rempli de condition et ton amour quand je reviens à toi.
prends soin de tes enfants, rempli de compassion et de miséricorde. Non, jamais je ne serai trop éloigné, trop brisé pour revenir à la maison. Non, jamais je ne serai trop éloigné, trop brisé pour revenir à la maison. Tu m'aimes d'un amour infini. Tu m'aimes d'un amour infini. Tu m'aimes d'un amour infini. Oh, tu m'aimes d'un amour infini et sans limite.
Je me serais contentée de m'asseoir à la table des serviteurs, mais toi tu m'invites à manger avec toi. Je me serais contentée de m'asseoir à la table des serviteurs, mais toi tu m'invites à manger avec toi.
Je me serais contentée de m'asseoir à la table des serviteurs, mais toi tu m'invites à manger avec toi. L'épreuve du temps.
Si tu crois qu'on allait te laisser partir sans l'action du jour, non. Marina, quelle est l'action du jour que tu nous proposes ?
Alors nous allons réfléchir et décider, nous allons faire des choix en lien avec cette thématique que nous avons vue aujourd'hui. Alors pour la réflexion, cher auditeur, prends le temps, papier, crayon en main, un ordinateur, un attel, un téléphone portable, ça va aussi. Question, dans quelle zone de ma vie je vois un espace de prédestination où j'ai l'impression que Dieu a décidé un point, c'est tout. Comment est-ce que je pourrais investir cet espace en pesant le pour, en pesant le contre, des options qui s'offrent à moi en termes de choix? En essayant de comprendre la voie qui me semble déjà tracée, pourquoi est-ce que j'ai l'impression que le destin, le hasard, ou que sais-je, qu'entre nous j'appelle Dieu, te pousserait vers cette direction? Et puis tu peux demander à Dieu de s'expliquer, de t'apporter son regard, son éclairage. Tu peux demander conseil à des proches pour un meilleur recul. Et puis tu entres en action. Tu fais un choix. Le choix de suivre Dieu ou finalement de suivre ton propre choix. Dieu t'a doté d'une intelligence. Il faut que ça serve, alors fais un choix.
Yes.
On se libère de la fatalité là du coup. Hein.
Ouais, c'est
ouais.
Ça.
Ouais, c'est un peu ça.
Eh ben, merci okay. beaucoup pour ton action, Marina. Que le Seigneur t'accompagne, auditeur, auditrice, dans l'accompagnement de cette expérience avec Dieu. Nous sommes arrivés à la fin de ce culte. Je te remercie, Emmanuel, pour ton message. Tu le sais maintenant, ici, tu es à la maison. Tu reviens quand tu veux.
Merci.
On va prendre date d'ailleurs.
Ouais, merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Sois bénie dans ton ministère. Merci les filles pour vos partages.
Merci à toi, Brian.
Auditeurs, auditrices, merci de nous avoir accompagnés jusqu'ici. Je te souhaite une belle semaine et je te dis à la semaine prochaine. Ciao.
C'était le culte espoir. Une heure de culte hebdomadaire préparée par Amandine, Marina, Mildred et leur équipe.